Je vous propose cette petite introduction à la tradition. C'est un concept que l'on connaît bien mal, bien que nous, catholiques, en théorie, nous sommes censés avoir en haute opinion la tradition, qui, comme le dit le Concile Vatican II, est source de révélation au même titre que la parole de Dieu, qu'est la Bible. Mais malgré tout, nous n'avons qu'une idée très vague de ce qu'est la tradition. Alors, je vous conseille d'aller sur le site www.prieresansaccent.org pour avoir plus de renseignements, notamment à l'espace tradition pour ce qui est des conciles et pour les autres composantes, allez voir dans les cinq fondamentaux le fondamental qui s'appelle justement la tradition. Alors, tout d'abord, il faut définir ce qu'est la tradition. On entend généralement par tradition de l'Église l'ensemble des dogmes et traditions qui permettent aux catholiques de rester dans la vraie foi. La tradition est en quelque sorte le garde-fou pour éviter les sectes. C'est dans la limite de ce garde-fou que notre liberté d'interprétation peut et doit s'exercer pleinement. Effectivement, la tradition n'est pas très loin du concept de magistère, qui est le rôle d'enseignement officiel que le Christ a confié à son Église. Parce que, effectivement, je ne sais pas si vous vous êtes déjà rendu compte, mais une grande partie des sectes qu'il y a dans le monde sont d'origine biblique. On peut faire dire tout ce qu'on veut à la Bible. Vous avez les témoins de Jéhovah qui vont vous dire que la Bible réfute la Trinité, et puis il y a l'Église qui dit que la Bible, justement, nous révèle la Trinité. Alors, qui croire? La Bible, elle à elle toute seule, peut être interprétée de n'importe quelle manière et donner n'importe quoi. Alors il nous faut bien sûr des repères. Et le mot tradition veut bien dire ce qu'il veut dire. Ce n'est pas simplement un enseignement qui pourrait être arbitraire de l'Église, qui serait à prendre avec plus de véracité que l'enseignement des témoins de Jéhovah, par exemple, ou de toute autre secte, mais c'est un enseignement qui remonte aux origines de l'Église. Et ce qu'il faut bien savoir, c'est que la parole de Dieu, notamment le Nouveau Testament, n'est pas un écrit qui est né comme ça. Le Nouveau Testament est un écrit qui est fruit de la tradition. Trop souvent, les protestants veulent nous faire croire que la Bible, notamment le Nouveau Testament, est tombée du ciel, un peu comme le Coran pour les musulmans, et que la moindre virgule est inspirée. Mais l'Évangile a été prêché d'abord oralement, et puis petit à petit, par la tradition de l'Église, certains écrivains que nous appelons évangélistes se sont mis à écrire, à rassembler ce que la tradition déjà des premières décennies après la mort du Christ avait réussi à véhiculer oralement. Donc c'est dans l'Église qu'est né le Nouveau Testament comme un support de la tradition. D'ailleurs, à cet égard, c'est comme ça qu'il faut comprendre les pères de l'Église, parce que l'enseignement primitif de l'Église est celui qui est vrai. Alors il se retrouve bien sûr dans le Nouveau Testament, mais pas uniquement. Vous avez les pères de l'Église dits apostoliques, qui ont connu les apôtres pour certains, et qui véhiculent dans leurs écrits certaines doctrines qui ont été prêchées par les apôtres, et qui ne figurent pas, disons, noir sur blanc, ou pas avec autant d'acuité dans le Nouveau Testament. Donc vous voyez, la tradition, c'est ce qui nous permet, dans les premiers siècles, d'appréhender avec le plus d'exactitude possible ce qu'était l'enseignement du Christ et de son Église, notamment à l'époque des apôtres, qui sont les témoins autorisés du Christ. Et puis après, la tradition, bien sûr, a continué par la définition des dogmes, etc., des conciles, d'écrivains plus tardifs. La tradition continue à vivre aussi dans la liturgie. Donc on pourrait distinguer la tradition reçue des siècles passés et la tradition contemporaine. Alors la tradition reçue des siècles passés, c'est d'abord les pères de l'Église. Hein, comme je dis, eux vraiment nous permettent de remonter à la source et d'appréhender avec le plus d'exactitude possible, en accord et en coopération avec le Nouveau Testament, ce qu'était l'enseignement des apôtres. À cet égard, c'est fondamental parce que cette conception des pères de l'Église, comme étant des témoins privilégiés de l'enseignement des apôtres, fait que la tradition de l'Église, notre Église catholique, est vraiment celle qui est le plus proche de l'enseignement des apôtres. C'est bien pour ça que la tradition et l'enseignement de l'Église qui va suivre dans les siècles, qui allait suivre les siècles, les tout premiers siècles du christianisme, ont autorité par rapport aux autres sectes qui se feront jour après, parce que l'Église a ses racines jusque dans les pères, qui remontent eux-mêmes jusqu'aux apôtres. Donc vous comprenez pourquoi on peut faire davantage confiance à l'Église quand elle décide que telle ou telle chose est juste au niveau doctrinal plutôt qu'à une autre secte. Donc cette tradition reçue des tout premiers siècles, elle se continue dans les siècles qui sont encore passés. On peut distinguer ainsi les conciles œcuméniques, qui sont au nombre de 21. Donc, ça c'est après les pères de l'Église. Nous avons les conciles qui ont continué cette définition du dogme. Et puis enfin, nous avons les docteurs de l'Église. Alors certains sont pères de l'Église, mais nous avons aussi des écrivains plus tardifs qui ont continué ce mûrissement du dogme, de la compréhension de l'enseignement des apôtres. Alors après, enfin, on peut aussi parler des encycliques des papes des siècles passés, qui sont aussi très importants comme témoignage des progrès de la foi. On peut distinguer, donc après la tradition reçue des siècles passés, qui prend ses racines donc dans les pères de l'Église, qui eux-mêmes se nourrissent du Nouveau Testament, et puis nous avons vu relié par les docteurs de l'Église et les conciles, nous avons la tradition contemporaine. Cette tradition, eh bien, c'est tout simplement les encycliques des papes de l'époque contemporaine, on peut dire du XXe et du XXIe siècle, et les écrits du Concile Vatican II qui sont fondamentaux. N'oublions pas non plus le catéchisme de l'Église catholique et la liturgie en vigueur. Donc ces aspects sont ce qu'on pourrait appeler la tradition contemporaine. Donc à la lumière de ce qui vient d'être dit, on comprendra aisément qu'un catholique, contrairement à un protestant par exemple, ne devra pas se contenter de la lecture de la Bible seulement, de peur de dévier, comme le dit saint Paul dans la première épître à Timothée chapitre 6 verset 20, du saint dépôt, de la sainte tradition. D'ailleurs, si vous avez l'occasion un jour de consulter le bréviaire et de voir un petit peu comment les moines prient, c'est révélateur. Ils prient un office qui s'appelle l'office des lectures, ce qu'on appelle aussi la lectio divina. Et cet office des lectures se compose toujours de deux lectures. La première est biblique, mais la deuxième est tirée de la tradition, justement, des conciles, des pères de l'Église, des docteurs de l'Église, tous les aspects dont je viens de vous parler. Voilà, c'était une toute petite introduction à la tradition. Je voudrais bien sûr vous spécifier que d'autres enregistrements sont à votre disposition qui vont aborder chacun de ces aspects de la tradition. Il y aura des conciles, des pères de l'Église, etc. Mais disons, ce qu'il vous faut retenir, c'est que la Bible, bien sûr, est au centre de la révélation, mais elle doit être accompagnée d'une interprétation juste, qui est un garde-fou qui nous permet une très grande liberté, mais nous avons besoin de garde-fous, de barrières qui font que nous savons les limites à ne pas franchir au niveau doctrinal et au niveau moral. C'est important d'avoir une idée claire de ce qu'est la doctrine, parce qu'on connaît bien une personne, plus on connaît une personne, je veux dire, plus on l'aime. Eh bien, pour Dieu, le Christ, etc., eh bien, plus nous avons une idée de qui est Dieu, de qui est son Fils, eh bien, précise, plus nous pourrons l'aimer. C'est pour ça qu'il est important d'avoir une idée juste de ce qu'est Dieu, de ce qu'est son Fils, de ce qu'est le salut, de la place de l'Église. Parce que si nous n'avons pas, je veux dire, une idée précise, nous aimerons Dieu d'une idée floue et nous risquons de nous faire un Dieu à notre image. Et c'est nous que nous risquons d'aimer à travers ce Dieu que nous faisons trop à notre image. Donc voilà, la tradition est importante car elle nous permet, avec la Bible, d'avoir une vision, disons, le plus objective possible de ce qu'est, de qui est Dieu. Et ainsi, nous pourrons vraiment aimer Dieu comme une personne qui nous fait face et non pas comme une personne que nous fabriquons. Voilà, c'est une toute petite introduction à la tradition, mais je pense qu'elle était nécessaire.